Et donc ce matin, je vais vous inviter, on va tourner dans Luc. Luc 12. Luc 12, on va faire les versets 22 à 34. Puis vous savez, en regardant peut-être les difficultés auxquelles vous avez fait face durant les, quoi, 2, 3, 4 dernières années, vous savez, ce serait facilement, humainement parlant, ce serait facile de trouver des raisons d'être découragé. En fait, on n'est pas vraiment obligé de les chercher. Souvent, il arrive. Possiblement que ça vous arrive parfois de croire que l'Église va peut-être fermer ses portes avec vous. Et ça se peut. On ne connaît pas la volonté de Dieu. Mais vous savez, même si parfois on n'a pas l'impression de voir des fruits tangibles dans nos vies, dans la vie de nos églises, la réalité, c'est que d'être fidèle à Dieu, à sa sainte doctrine, à l'enseignement dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, c'est de ramer à contre-courant. C'est de ramer contre le courant de notre culture, de notre société, contre les mœurs, souvent, de comment on fait les choses. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va être évalué non pas à l'ampleur de notre Église, de notre ministère, de nos membres, mais à la fidélité de nos vies, de façon individuelle et de façon communautaire. C'est comme ça que Dieu juge du succès. Et donc, parfois, il faut réévaluer ce que c'est réellement le succès. Et pour ces raisons, ce matin, j'ai pris ce texte parce que je voulais vous apporter un mot d'encouragement, mais un mot d'encouragement qui n'est pas juste une motivation humaniste, personnelle, qui vous motive à faire mieux, mais une motivation qui vient des Écritures, qui vient du Seigneur lui-même, en fait, parce qu'on va voir les paroles sortent de la bouche de Jésus ce matin. Et donc, on va aller voir le verset 22. On va commencer par le verset 22 à 28, ce premier bloc. 12, 22 à 28. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni greffier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comme en croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans le champ et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous revêtira-t-il pas, gens de peu de foi? » Ça finit mal. Gens de peu de foi. C'est nous qui parlons. Mais heureusement, il y a une solution. On va la voir plus tard. Et vous savez, si vous êtes comme moi, si vous êtes comme l'apôtre Luc, comme l'apôtre Paul, comme à peu près tous les gens de l'humanité, en fait, à qui Jésus parle, il y a plus que de fortes chances que vous êtes probablement souvent inquiet et anxieux. Ou du moins, vous êtes dans une très grande minorité d'êtres humains. Jésus ne nomme, ce qui est intéressant, c'est que Jésus nomme que des choses qui sont essentielles à la vie. Manger, boire, se vêtir, c'est assez la base de ce qu'on a besoin en tant qu'être humain pour survivre. Mais Jésus nous rappelle que notre Dieu n'est pas absent de nos vies quotidiennes. Il est absent dans les choses qui sont les plus fondamentales, essentielles à l'être humain. Et que nos soucis qui, on dirait, pourraient être banals, sont pour lui un important souci. Et il pourvoit à ces choses. Vous savez, on avait la fâcheuse tendance à comprendre la providence de Dieu comme étant quelque chose qui est événementiel, c'est-à-dire qui est comme un peu sporadique ou temporaire. La providence de Dieu, ça arrive, puis là, ça repart. On voit la providence comme ça. On a souvent l'impression que la providence, c'est un peu juste quand il arrive des grandes choses. Le grand réveil dans les années 70, ça, c'était la providence de Dieu. Pourtant, ce que Jésus nous dit dans ce passage-là, c'est exactement le contraire de cette réflexion qu'on a souvent. Il nous prouve en utilisant deux illustrations qui sont très simples dans le verset 24 et un peu plus loin sur les lits. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus compare la moisson avec le mérite de l'oiseau. On pourrait se dire, est-ce que l'oiseau mérite ce qu'il mange? Pas vraiment. L'oiseau ne moissonne rien de ce qu'il mange, donc il ne mériterait pas de manger. Mais Dieu, dans sa création, a pourvu à ce qu'une façon que l'oiseau qui ne moissonne pas puisse quand même manger. Donc Dieu, l'image, c'est que Dieu pourvoit aux besoins les plus de base de l'être humain. À plus forte raison, s'il le fait pour les oiseaux, il va le faire pour nous. C'est donc de dire que Dieu pourvoit à la façon, à la possibilité que ces oiseaux se nourrissent, peu importe ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils méritent. En d'autres mots, Dieu pourvoit. C'est la providence de Dieu qui fait que les oiseaux mangent. Et donc, l'argument que Jésus leur donne à ce moment, c'est si les oiseaux mangent et qu'ils n'ont rien mérité, et puis que vous, en plus, vous travaillez pour avoir un salaire, que vous mangez, etc., à quelle plus forte raison, si vous travaillez, plus tard on va en parler, pour le royaume, je vais vous donner ces choses essentielles, fondamentales. Vous voyez l'erreur qu'on fait souvent, que je fais souvent, c'est de penser qu'à un moment dans nos vies, Dieu cesse de pourvoir. Comme si Dieu arrêtait soudainement d'être bon et gracieux envers notre égard. Donc souvent, la façon qu'on va réfléchir, sans s'en rendre compte nécessairement, c'est que quand ça va bien, c'est la bénédiction et la providence de Dieu. Et quand ça va mal, c'est l'absence de la providence de Dieu. Mais pourtant, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que Dieu pourvoit dans toutes les situations, même quand ça va soudainement mal dans nos vies. En réalité, sans la constante providence de Dieu, 24 heures sur 24, on serait laissé à nous-mêmes, on serait impuissants. Par différents moyens, comme la lecture, la prière, de s'assembler en commun avec les frères et sœurs, le dimanche, le culte, Dieu nous soutient par sa grâce, par l'Esprit Saint, en tout moment, en toute chose dans nos vies. Vous savez, le salut n'est pas seulement l'histoire d'être sauvé un jour et après ça, Dieu nous laisse à nous-mêmes dans un monde horrible, en perdition et bonne chance. Non, Dieu ne nous laisse pas dans ce monde hostile au dépourvu. Il soutient l'homme. Au contraire, Dieu est avec nous tous les jours de notre vie, il nous dit plusieurs psaumes, presque textuellement d'ailleurs. Et sa providence est aussi réelle pour les petits que pour les grands événements de nos vies, pour les choses essentielles, fondamentales qui nous semblent avoir aucune importance dans notre quotidien, que ceux qui sont grandioses, joyeux, et que ceux qui sont vraiment bas et douloureux. Sa providence est une puissante réalité de nos vies, et en tant que croyants, on devrait encore plus la comprendre et la voir et l'apprécier. Même quand toutes les circonstances autour de nous s'abattent contre nous. Et vous savez, c'est un peu le message quand on va voir dans l'Épître de Philippiens. L'Épître de Philippiens qui nous parle sans cesse de joie, mais qui n'est pas une joie qui est circonstancielle, qui est une joie qui est plus profonde que seul le chrétien peut avoir. Parce qu'il reconnaît la providence de Dieu. Et il trouve sa joie en Dieu malgré la difficulté de la vie, qui est très réelle pour nous en tant qu'êtres humains. Ce n'est pas une illusion qu'on est malheureux des fois, on est vraiment malheureux. Donc sa providence est puissante, elle est une réalité quotidienne dans nos vies. Et vous savez ce qui est malsain de ce qu'on pourrait appeler, ou ce qu'on appelle dans notre monde moderne, l'anxiété ou l'inquiétude? Parce qu'en réalité, c'est de ça que Jésus parle. Et Jésus identifie clairement ce qui est malsain. Il nous dit que c'est malsain de s'inquiéter pour ces choses-là parce que l'homme n'y peut absolument rien. Qu'est-ce qui est plus malsain que de s'inquiéter sans cesse de des choses qu'on ne peut changer? Et vous savez, dans notre monde, on parle souvent de la pensée positive, de la volonté, du désir, du guerrier, de ce genre d'idéologie-là. Et ce sont des concepts qui souvent plaisent à l'homme parce que ça flatte un peu notre ego, on pense qu'on peut y arriver et tout. Et on pense surtout qu'on est au contrôle de toute chose en ayant cette réflexion. Mais la réalité, C'est que l'homme, quand il est un peu réaliste et qu'il réfléchit, doit reconnaître que malgré une volonté d'acier, de vaincre et d'avoir du succès dans sa vie, certaines circonstances viennent souvent nous accabler et limiter même nos accomplissements en tant qu'être humain, que ce soit au travail, à l'église, dans toutes sortes de situations pratiques. La vérité, c'est que malgré cette idée que l'homme peut faire n'importe quoi s'il a assez de volonté pour vouloir le faire, nous ne contrôlons pas tout ce qui arrive dans nos vies, malgré les meilleures pensées que l'on peut avoir, les plus profonds désirs que l'on peut avoir. Et parfois, l'épreuve peut être trop grande. Pas pour le chrétien, dans le sens où Dieu va nous supporter parce qu'il ne nous donne pas d'épreuve au-delà de nos forces. Mais l'épreuve peut être tellement grande qu'on se sent au dépourvu. Et c'est pourquoi Jésus reconnaît cette réalité. Il reconnaît que l'homme, à cause de ses situations pratiques, a besoin d'être constamment trouvé sous la providence, sous l'onction de Dieu. Jésus, en fait, reconnaît qu'il n'y a aucune issue humaine et aucune utilité, humainement parlant, à s'inquiéter et à être anxieux pour la vie de l'homme. Personne, il nous dit que personne ne peut ajouter une seule seconde, une seule, le plus petit, la plus petite mesure de calcul, la plus petite mesure qu'on ne peut même pas ajouter absolument rien à notre vie par l'anxiété ou l'inquiétude, le stress, peu importe. Et donc, je veux être clair par contre, je ne crois pas que ce passage nous encourage à délaisser nos responsabilités humaines ou à cesser de faire tous nos efforts. Je ne pense pas que c'est ça l'idée que Jésus enseigne. Cependant, Jésus remet en perspective nos efforts en tant qu'être humain et nos soucis en tant qu'être humain et notre anxiété. Il le remet dans un contexte où malgré toutes ces choses, Dieu est le maître au contrôle. Dieu est celui qui contrôle tout, qui pourvoit tout, et que si on a réellement des besoins en tant qu'être humain, c'est vers Dieu qu'on va. Oui, on fait nos efforts. Oui, on se pratique à être des gens justes, fidèles et bons, évidemment. Mais ultimement, on crie vers Dieu, on va vers Dieu, on se fie en la providence de Dieu. Et donc, il finit ce point-là, Jésus, au verset 27, quand il refait une deuxième illustration. Comme pour être sûr, tu sais, des fois, s'il fait ça, si on n'a pas compris le premier coup, peut-être qu'on va comprendre le deuxième. Pour nous redonner une illustration d'un champ qui est couvert de fleurs de lys. Et comment ceux-ci sont absolument sous la providence de Dieu aussi. Et ils sont sans égal dans leur beauté. Ce que Jésus fait ressortir, c'est que leur beauté naturelle ne vient pas d'eux-mêmes. C'est Dieu qui leur a donné tout ce qui est nécessaire à être beau comme ça. Dieu a pourvu encore une fois pour ces fleurs qui n'ont vraiment aucun mérite quand on y pense. Ils ont été installés là par Dieu, créés là par Dieu et soutenus là par Dieu. On trouve dans cette image que Jésus donne deux vérités significatives pour nous ce matin. On voit que si Dieu pourvoit à l'herbe, il nous a dit qu'elle est éphémère, un coup que la fleur est plus bonne, on la jette au feu, on la fait brûler, donc elle est éphémère. Et si Dieu pourvoit pour elle, il pourvoira aussi pour ses enfants qui sont destinés à la gloire éternelle, donc qui, eux, ne sont pas périssables, contrairement à cette fleur qui est d'une beauté incroyable. Et deuxièmement, justement, si Dieu habille ces fleurs sauvages d'un si beau vêtement, il va aussi certainement habiller ses enfants d'un vêtement qu'ils ont besoin chaque jour. C'est comme une double signification de à la fois de la providence de Dieu pour les choses les plus simples et de la valeur de l'être humain à ses yeux. C'est un grand réconfort que de savoir que malgré tout ce que l'on peut faire ou ne pas faire pour Dieu, Dieu pourvoit en toute situation, dans les mauvaises comme dans les bonnes, dans la joie comme dans la pauvreté. Et donc, c'est avec toute cette ce bagage-là qu'on arrive au verset 29 et 30, où Jésus nous dit ceci. Et vous, là il parle à nous en tant que chrétiens, et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Et donc, quelle est la réaction, quelle devrait être la réaction du chrétien face à cette anxiété, face à cette inquiétude, qui est une partie bien réelle de nos vies en tant qu'êtres humains? Et vous savez, dans notre monde, je suis persuadé que la majorité d'entre nous souffrent d'une certaine forme d'anxiété ou de stress. Au minimum, c'est temporaire, ça vient, ça va selon les événements que l'on vit dans nos vies ici-bas. Si ce n'est pas la persécution dans certains pays, on pense à l'Inde, à la Chine, où les gens sont violemment persécutés de leur vie, si ce n'est pas la pauvreté, c'est possiblement peut-être le poids de la réussite personnelle, du succès au travail, du stress au travail, de la folie, ou tout simplement la folie et la vitesse auxquelles le monde, on communique, on fait les choses. La vie va vite, on dit souvent ça, la vie va vite. Ça cause un stress, le fait que la vie va vite. On fait tout vite. Et au travers de ça, parfois, on oublie et on devient anxieux et on s'inquiète et on a de la misère. Et si on est sincère, la majorité du temps, cette anxiété-là que l'on vit est malsaine. Elle est nourrie par nos attentes et nos désirs qui sont la majorité du temps charnels. Et vous savez, bien qu'on ne puisse pas changer le monde littéralement, et les circonstances dans lesquelles Dieu nous place, on peut apprendre, par contre, à faire confiance à Dieu au travers de ces situations-là. Donc, on n'a pas la capacité de changer le monde littéralement, de changer nos circonstances, mais on a la capacité de crier à Dieu et de se laisser dans les bras de la protection et de la... Tu fais que Dieu pourvoit. Pourvoyance, ça se dit pas pourvoyance. C'est pas un verbe. Charbon québécois. Jusqu'à maintenant, dans le passage, Jésus nous a démontré que l'anxiété est littéralement inutile. Et elle est vaine, elle n'a pas vraiment de valeur en soi. Mais il va non seulement ajouter qu'elle est inutile et qu'elle n'ajoute pas de temps à nos vies, Jésus va même ajouter dans ses passages qu'elle est à l'encontre, elle est incompatible avec la foi du chrétien. Ça l'achoppe un peu, ça nous fait mal un peu, parce que si vous êtes sincère avec vous-même, vous vivez souvent de l'anxiété, comme je vis souvent de l'anxiété, et on se dit, mais pourquoi? Au verset 29 et 30, Jésus nous donne une troisième raison que le chrétien ne devrait pas vivre de l'anxiété. C'est parce que c'est les païens qui vivent de cette façon. Ceux qui sont dans le monde et qui n'ont pas cet espoir que Dieu et sa main les soutient. Ils agissent ainsi parce qu'ils espèrent, avec toute leur frénésie, leur volonté, leur pensée positive, ils vont pouvoir changer quelque chose à ce qu'ils se sentent inefficaces de changer dans leur vie. Et qui sont anxieux parce qu'ils croient qu'en faisant plus, ils vont finir par avoir un résultat. Mais Dieu nous dit, vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes mon peuple, vous savez que je pourvois ces choses. Pourquoi êtes-vous anxieux? Parce que c'est les païens, ceux du monde, qui ne connaissent pas Dieu, qui agissent ainsi. Ouch! Mais ce que Jésus nous indique, c'est que notre comportement ne doit pas être comme celui du monde à cet égard. Il serait difficile d'exagérer, malheureusement, la portée du passage qui nous est présenté par Jésus-Christ lui-même. Ce que Jésus enseigne, c'est que les croyants doivent être différents des inconvertis, différents d'une façon fondamentale par leur aspiration même, les choses intérieures qui les animent. Pas juste différents parce qu'ils viennent à l'église le dimanche matin, s'assirent dans des bancs, puis qu'ils s'habillent un peu bizarre ou je sais pas quoi. Pas différents par leurs mœurs, mais différents par leur âme, littéralement, ce qui est à l'intérieur d'eux. Parce qu'ils doivent être fondés dans leur cœur sur des choses différentes. Ils doivent être contrôlés par des idéaux différents, par des motivations, par un amour différent de celle du monde. Lorsque les membres de l'Église de Christ ne sont pas différents des païens du monde, on a un grand problème. On a un grand problème de distinction. On doit être différent dans le sens que nos ambitions, les choses que l'on chérit, doivent être différentes. Les objectifs qui animent nos vies, les objectifs qu'on atteint, qu'on espère atteindre, doivent être différents. Et ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas avoir des objectifs communs avec les gens qui ne sont pas chrétiens. Évidemment, on veut tous avoir du succès, on veut tous bien travailler, faire nos emplois comme il faut. Et ça, les païens aussi le veulent. Donc, ce n'est pas pour dire qu'eux ne veulent pas nécessairement toutes les mêmes choses. Mais on doit avoir des désirs qui sont additionnels ou différents dans la manière dont on agit au travers des déceptions, par exemple. Au travers l'adversité de la vie, on ne doit pas réagir comme les païens. Dans la manière dont on organise nos familles, notre vie, notre temps, on ne doit pas faire les mêmes choses. Donc, ça implique toutes sortes de choses, évidemment. Ce ne sont pas des choses qui sont textuelles, c'est des choses que je mets en application pratique, mais si on pense à comment on veut être différent des païens, ce sont toutes des choses qu'on doit réfléchir pour nos propres vies, évidemment. Mais de vivre sous la providence de Dieu, ce que Jésus nous enseigne, c'est que ça veut nécessairement dire de vivre en faisant confiance à Dieu. De vivre en conformité à la loi de Dieu, par exemple. De vivre de façon à ce que nos vies chrétiennes soient conformes à ce que Dieu nous a donné dans sa grâce, le salut. Et par toutes ces choses, par ce qui va émaner de nos vies en tant que chrétiens, on va inévitablement être différencié de ceux qui nous entourent, des païens et du monde. Et une des aspects sur lesquels Jésus se concentre dans ce passage, c'est l'inquiétude, l'anxiété. Et jusqu'à présent, Jésus nous a parlé en termes négatifs, c'est-à-dire que il a commenté sur les choses à ne pas faire. Mais maintenant, il va se tourner dans les passages 31 à 33 sur comment un chrétien devrait vivre selon la providence de Dieu. Donc maintenant, on sait de quoi ne pas faire et quelle attitude ne pas adopter. Et maintenant, on va savoir quelle qu'on devrait adopter. Au verset 31, ça continue. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus, au par-dessus, excusez. Je dis en plus parce que c'est les paroles du fameux petit chant qu'on fait souvent. Cherchez d'abord le royaume. Un classique. La solution de Jésus au verset 31 est, en réalité, elle est extrêmement simple. Arrêtez de chercher les choses du monde et tournez-vous dans la recherche des choses de Dieu. À la limite, pour certaines personnes, la solution de Jésus peut paraître un peu simpliste pour répondre au problème de l'anxiété. Ça peut sembler un peu simple. Et dans un monde où on invente littéralement un nouveau titre, une nouvelle maladie à chaque semaine pour l'humanité, ça peut paraître parfois peut-être archaïque, même illusoire, de prêcher une délivrance de l'anxiété, du stress, juste par la simple foi en Dieu. Ça paraît quasiment trop beau pour être vrai. Et vous savez, bien que je n'ai rien contre la médecine moderne ou contre la médication, je crois sincèrement que le meilleur docteur avec le meilleur médicament, c'est le Fils de Dieu et le salut en Jésus-Christ. Il n'y a pas vraiment de solution ultime au problème de l'homme, sauf celui-là. Évidemment, ne coupez pas votre médication, s'il vous plaît. Je ne suis pas médecin. Ils connaissent mieux ce que vous avez besoin pour vos corps que moi. Ceci étant dit, je crois sincèrement que la parole de Dieu peut guérir vos âmes. Peut-être qu'elle ne guérit pas tout le temps le corps humain, qu'on vit, comme Paul, on vit avec des vestiges de notre chair qui nous causent angoisse et mal, même physiquement, des fois. Mais Dieu peut guérir notre âme, peut guérir l'homme de son anxiété, du stress de la vie. Et la solution de Jésus est simple. Abandonner cette recherche des choses futiles. Elle est simple, mais extrêmement difficile à mettre en pratique. Abandonner les choses du monde. Abandonner les choses que les païens courent après de façon effrénée. La recherche de la gloire, la recherche de la richesse, du succès, de la réputation glorieuse auprès des autres hommes. Abandonner ces choses. Rechercher le royaume de Dieu. Simple, mais vrai, et extrêmement difficile. Jésus va même jusqu'à dire que l'essentiel, les choses qui sont nécessaires pour l'homme à vivre, ce qu'il a dit dans les premiers passages du texte que l'on a lu, la nourriture, le manger, le boire, le toit même, toutes ces choses vont simplement nous être données par-dessus ces choses. Donc Dieu ne les oublie pas. Pendant que les chrétiens se concentrent ou concentrent toute leur attention à chercher à établir le royaume de Dieu, à faire progresser le royaume de Dieu, à vivre différemment des païens, le Père céleste veille à ce qu'ils aient non seulement une abondance de bénédictions spirituelles, mais en plus de la nourriture, des vêtements, la nécessité de la vie quotidienne. Dieu leur promet qu'ils ne manqueront de rien. Juste un bémol, ce passage n'enseigne pas que les chrétiens vont tous vivre dans la gloire et la richesse. Ce n'est pas ce que le passage dit, il faut faire attention. Ça ne dit pas qu'il n'y aura jamais de temps de misère et de difficultés pour les chrétiens. Ce n'est pas ça que ça dit non plus. Mais ça promet que Dieu va pourvoir au nécessaire, à ce que l'homme a besoin pour vivre. Est-ce qu'on va être multimillionnaire demain parce qu'on place notre foi en Dieu? Probablement pas. Mais on est plus riche que l'on le pense, vous savez. Et nos besoins terrestres, Dieu ne les oublie pas. Tout comme il n'oublie pas ceux des oiseaux. Et il nous a déjà dit qu'on avait une plus grande valeur que les oiseaux. Donc Jésus promet que le minimum au moins va être pourvu. Et que par-dessus ça, en plus, on va voir... On investit dans le royaume de Dieu et on gagne un investissement qui est beaucoup meilleur que celle que les hommes font sur terre. Et pour éviter de tomber dans le piège et la folie de ce monde, dans l'anxiété, le stress qui, croyez-moi, environne les gens alentour de nous, si pas nous-mêmes parfois, qui nous agrippe si facilement, la solution simple de chercher le royaume de Dieu, de faire des choses qui sont selon la volonté de Dieu, en vous donnant à Dieu et en vous oubliant vous-même, parce qu'une partie intrinsèque, une partie intégrale de chercher le royaume de Dieu, c'est aussi de s'oublier soi-même et ses désirs charnels. Dieu va pourvoir et va vous libérer de cette anxiété, de l'inquiétude du monde, de l'inquiétude que ces païens ont. Et donc, on arrive au verset 32. « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et vous savez, ce verset devrait venir particulièrement pour vous comme un baume sur vos cœurs. La valeur du petit troupeau n'est jamais trouvée dans son ombre. Heureusement. Et gloire à Dieu. Au verset 32, qui est un verset pratiquement unique au Nouveau Testament, l'expression « petit troupeau » n'en vient nulle part autre. L'appellation « petit troupeau » n'en vient nulle part autre. Ne crains point. Jésus refait l'appel qu'il a fait initialement à ne pas se soucier, mais il spécifie que l'appel se fait au petit troupeau auquel il s'adresse. Effectivement, nous sentons pressés d'admettre que ce passage réconforte notre âme. Parce qu'on est peut-être 30-40 à Actonville, mais vous savez, à côté de d'autres églises évangéliques qui sont proches de nous, on est très peu, nous aussi. Et ça peut être, on pourrait vivre en se comparant. Des fois, on se compare, on se console. Dans notre cas, c'est pas exactement vrai. Quand on se compare, on se console pas tant humainement parlant. Mais ça nous console. Jésus se soucie du petit troupeau. Il se soucie aussi du grand troupeau, mais il se soucie du petit troupeau, de la petite église. La valeur du troupeau n'est jamais dans son nombre. On est encouragé par le nombre de façon humaine, parce que c'est le fun de voir beaucoup de gens. Mais Dieu prend plaisir en chaque membre du royaume. Dieu donne une grande valeur en chaque membre du royaume. En fait, c'est exactement là que le petit troupeau trouve toute sa valeur. Ce n'est pas parce qu'il est petit qu'il est important. Ce n'est pas parce qu'il est grand qu'il est important. Il est important parce qu'il est le peuple de Dieu. Parce qu'il est le peuple du royaume. Parce que le royaume appartient à ceux-ci. Peu importe comment ils sont. Les 6, les 20, les 40, c'est pas important. L'important, c'est que le royaume nous appartient. Quelle promesse grandiose quand même. Avec ça, ça devrait être assez quand même pour qu'on ne se soucie pas pendant quelques minutes. Qu'on oublie nos problèmes. Mais quelle promesse grandiose! Possiblement que parfois vous souffrez d'être une petite assemblée, et je suis certain que c'est une réalité. Mais prenez courage ce matin. Jésus lui-même trouve une grande valeur en chacun de vous. Et en n'importe quelle autre église, d'ailleurs, qui sont réellement membres de son corps. La croissance et le succès biblique n'est pas mesuré de la même façon que celui qu'on retrouve dans le monde. Dans le monde, on vous dirait peut-être que vous n'avez pas beaucoup de succès. Mais dans le royaume de Dieu, ça n'a aucune importance. Notre fidélité à Christ, à l'enseignement de Christ, doit être notre seul souci. Bien que nos assemblées pourront un jour grandir ou rétrécir, pourront, comme j'ai dit au début, peut-être disparaître ou se multiplier, vous savez, ultimement, ça n'a pas d'importance parce qu'on est ici pour être fidèle à Dieu. On est ici pour obéir à la volonté de Dieu, à ce que Dieu nous demande. Et notre valeur n'est pas dans le fait qu'on est plusieurs ou qu'on est peu. Elle est dans le fait qu'on est le peuple de Dieu et que le royaume de Dieu nous appartient. Littéralement, nous appartient. Nous sommes tous membres de ce corps, des membres royaux et célestes. La joie appartient à ce petit troupeau. Et mon espérance, c'est que ce matin, vous pouviez trouver un réconfort et une joie dans le fait d'appartenir à ce troupeau, de trouver votre identité dans le fait d'appartenir au royaume de Dieu. Et donc, mon encouragement, je crois que celle de Jésus dans ce passage, c'est d'être fidèle à la vérité, de vivre de façon différente des païens. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas d'impact alentour de vous, mais quand vous vivez sous la providence de Dieu, c'est évident pour tous. Soyez fidèles à la vérité, dans votre vie personnelle, dans votre vie communautaire en tant qu'Église. Combattez le bon combat de la foi, comme le dirait Paul. C'est à nous, le petit troupeau, que Jésus donne le royaume. C'est le fun qu'il ne donne pas au grand troupeau. Non, ils ont assez d'affaires. C'est une joke. Mais le titre affectueux nous réconforte. Soyons trouvés fidèles à son retour. Et je vais terminer en conclusion ce matin avec les versets 33-34 qui terminent un peu si on peut dire, le bloc de texte. Qui nous dit « Vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui n'usent point et un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point. Où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Et donc, en conclusion ce matin, l'appel qui est fait au petit troupeau en réponse à cette bénédiction de faire partie du royaume de Dieu, c'est d'abandonner les trésors d'ici-bas et de commencer à investir pour des trésors qui sont éternels. pour des trésors qui font partie du royaume. Effectivement, le verset 33 nous rappelle comment les premiers chrétiens ont parfois même dû aller jusqu'à mettre en commun leurs biens physiques pour se nourrir les uns les autres, parce que le temps dans lequel ils vivaient demandait qu'ils fassent ça pour littéralement survivre. Et c'est la manière dont Dieu a pourvu pour ceux qui étaient faibles et pauvres. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on est appelé à reproduire littéralement nécessairement aujourd'hui. Ce ne serait pas péché de le faire, mais ce n'est pas ordonné. La possession n'est jamais problématique dans le Nouveau Testament. On a le droit d'avoir des choses en tant que chrétien. La Bible n'enseigne pas que le chrétien doit obligatoirement s'appauvrir. Cependant, le message qu'on retrouve ici de la part de Jésus est radical, dans un sens qu'il est enseigné à la conclusion de cette section sur la providence de Dieu. Il nous rappelle que investir dans les choses célestes, dans les trésors inépuisables, a une infiniment plus grande valeur que d'investir dans la folie du monde, de se donner corps et âme pour le succès mondain, pour la réputation des hommes, pour notre propre gloire. Toutes ces choses sont éphémères. Nos maisons vont être détruites. Nos chars vont rouiller. Toutes ces choses-là, même les Ferrari rouillent en passant. T'sais. Tout rouille. Il n'y a rien dans ce monde qui va subsister, sauf les investissements éternels, les investissements célestes. Et l'image qui nous est donnée dans le verset 33, c'est celle d'un homme qui donne et dans laquelle la bourse est remplie parce qu'il donne. Une belle image qui nous rappelle que l'investissement qu'on fait avec nos biens physiques ou avec notre temps ou avec notre air, peu importe, tout investissement qu'on fait pour le royaume de Dieu est un bon investissement. Et même si peut-être qu'on n'en voit pas des fruits présentement, Dieu voit nos cœurs. Dieu voit notre fidélité et notre obéissance. Et c'est à ça qu'il faut s'accrocher. Ce sont des biens qui, contrairement à ceux du monde, ne pourront être volés, ne pouvons être détruits. Ils vont être éternels. C'est quand même des bons biens. Si on parlait d'un boursier demain de valeur éternelle, je peux vous dire qu'il patinerait pour en avoir de cette étiquette-là. Et c'est ce qu'on annonce quand on annonce l'Évangile. Cherchez les choses du royaume. Investissez à la bonne place vos vies, votre temps. Que vos soucis soient plutôt dans les choses du royaume et non dans les choses de ce monde. Le passage nous appelle quand même à être radical dans notre abandon des recherches de la richesse mondaine. Cherchons plutôt à être riches spirituellement. Et si, par la grâce de Dieu, on est riche physiquement, soyons généreux. Soyons généreux pour le corps, soyons généreux pour les autres qui ont des besoins. Mais que notre richesse de ce monde ne soit pas notre vrai investissement. L'importance du verset 33 n'est pas de définir le statut d'un disciple en termes de privation ou d'austérité. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est un meilleur disciple de Christ. Mais c'est de démontrer le besoin de ne pas s'attacher à des choses qui sont temporaires, qui sont même à la fois éphémères. Je termine. Hop, j'ai été dans mon temps. Des fois, je m'allonge un peu à l'église. Dans le verset 33, il est plus important de donner que de recevoir, de donner dans les choses célestes et d'investir. Vous savez, les mathématiques bibliques sont pas toujours comme l'arithmétique de notre monde commun. Quand on donne, c'est comme notre bourse, ça se remplit en même temps. C'est quand même un calcul qui est fort improbable dans notre monde aujourd'hui. Mais c'est les mathématiques bibliques. Quand on donne pour le royaume, on s'amasse une bourse qui est éternelle, nous dit, qui est inépuisable, un trésor inépuisable. Rien dans ce monde est digne de cet investissement-là ou de notre allégeance ultime. Rien dans ce monde n'est à l'abri du vol ou de la dégradation ou de la corruption de l'être humain. Et donc, nous sommes encouragé ou même exhorté par Jésus-Christ à trouver notre trésor, parce que là où est notre trésor, là va être notre cœur. Et donc, si notre trésor, c'est littéralement notre coffre en banque, notre réputation, notre travail, notre succès humain, ça veut dire qu'il est temporaire, qu'il est éphémère, puis qu'un jour, il va venir à une fin. Mais s'il est spirituel, s'il est basé sur notre identité en tant que croyant qui fait partie du corps de Christ, à qui appartient le royaume de Dieu, ben là, on a un trésor éternel dans lequel on peut prendre joie, plaisir, bonheur. Petit troupeau de rois. Faites confiance à Dieu. Vous êtes le royaume et trouvez votre trésor dans ce royaume. Et vous êtes important aux yeux de Dieu. Et la providence de Dieu est autant sur vous que sur toutes les grandes églises du Québec. Soyez encouragés ce matin et fortifiés dans votre âme, sachant que Dieu prend soin de vous. Et on va continuer à prier malgré nos faiblesses humaines, malgré nos erreurs, malgré nos manquements humains et malgré le fait que pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de fruits. Dieu va pourvoir. Soyez fidèles à ce que Dieu vous demande. Soyez fidèles dans vos propres vies, dans votre vie en tant qu'Église. Soyez fidèles aux Écritures. Peu importe le nombre que vous allez être. Et Dieu va vous soutenir dans toutes les choses de cette vie. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce passage. Merci parce qu'il nous confronte à la fois sur nos propres inefficacités, sur nos propres manquements dans nos vies, parce qu'on doit te confesser, Seigneur, que nous sommes souvent comme les païens. Nous sommes souvent inquiétés par les choses de ce monde, anxieux. Pardonne-nous. Merci dans ta grâce de nous pardonner. Merci dans ta grâce de nous soutenir. Et merci de faire de nous tes enfants. Quelle grâce, Seigneur, tu nous accordes de faire partie de ton royaume. Tu nous appelles tes enfants, tu nous as adoptés. Nous sommes ton peuple. Et un jour, nous serons assis avec toi. Merci pour chacun et chacune qui sont ici ce matin. Bénis-nous, Seigneur, ce temps, ce repas que l'on va prendre ensemble, les chants avec lesquels on va finir. Que tout ce qui soit fait ici, dans cette petite église, dans ce petit troupeau, soit ta plus grande gloire et manifeste la grandeur du don que tu as fait à l'homme. Amen. Amen.